Et au tableau, voici Clara Lecoq-Réal pour le journal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le temps est désormais compté. Un sommet européen débute à Bruxelles et aucun accord sur le Brexit n'est acté. Ce n'est pas tant les Européens qui bloquent que les élus britanniques. Nous irons à Londres, où les universitaires s'inquiètent également de leurs futures subventions.
Jean-Yves Le Drian est attendu en Irak. Le ministre veut mettre en place un dispositif international pour juger les combattants islamistes dans la région.
Pour la deuxième fois en trois semaines, des milliers d'agriculteurs néerlandais ont manifesté hier à La Haye. Ils protestent contre la politique du gouvernement dans la lutte contre le réchauffement climatique. France Culture les a rencontrés.
Dans ce journal aussi, nous reviendrons sur la colère face à la réforme des retraites. Le gouvernement pourrait repousser son application.
Et puis nous entendrons Barbara Cassin, la philosophe et helléniste, entre officiellement aujourd'hui à l'Académie française. Pourquoi le tirage au sort est-il à la mode en politique en ce moment? Réponse de Frédéric Seyss dans son billet politique, ce sera après ce journal. Le sommet européen qui s'ouvre ce matin devait entériner les progrès dans les négociations sur le Brexit. Il n'en est rien car aucun accord n'a encore été annoncé. Boris Johnson semble avoir cédé sur une partie des revendications de Bruxelles, mais ces changements doivent encore être validés par les alliés du Premier ministre. C'est donc essentiellement au Royaume-Uni que se déroulent les discussions, Antoine Géniaud.
Nous approchons du sommet de l'Everest, mais il est encore caché par les nuages. Voilà les mots de Boris Johnson hier soir devant les députés conservateurs, car le Premier ministre, premier de cordée du Brexit, n'a pas le choix. Il doit convaincre et rassembler. Il lui manque aujourd'hui une cinquantaine de voix pour avoir la majorité à la Chambre des communes. Impossible donc de prendre le risque de signer avec Bruxelles un texte qui ne ferait pas l'unanimité. Et ce sont surtout les unionistes nord-irlandais qu'il va falloir convaincre. Le projet d'accord négocié avec Bruxelles prévoit que l'Irlande du Nord quitte l'union douanière tout en restant alignée sur les réglementations européennes. Pas question d'être traité différemment, de devenir une enclave, de mettre en péril l'unité du royaume, explique Sammy Wilson, leur porte-parole. Ils réclament, selon la presse britannique, un droit de veto et, comme en 2017 et en 2018 face à Theresa May, bloquent avec ses collègues l'ensemble des discussions.
Sauf que cette fois, Boris Johnson a déjà prévenu, même sans accord, le Brexit aura lieu le 31 octobre, dans 14 jours. L'inquiétude grandit outre-Manche et particulièrement dans les universités, Antoine, vous l'avez constaté.
Dans l'amphithéâtre du King's College, 20 nationalités différentes pour ce colloque sur les mutations de l'ADN. Des professeurs, des étudiants, des chercheurs en post-doc comme Lina, allemande, pas certaine de rester au Royaume-Uni.
Il me reste un an de contrat, mais on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Moi, je suis venue ici pour rencontrer des chercheurs venus d'horizons différents. Et là, je n'ai plus vraiment l'impression qu'on nous dit qu'on est les bienvenus.
Dans plus de la moitié des universités britanniques, les candidatures d'élèves et de chercheurs sont d'ailleurs en chute libre. Près de 60% des directeurs d'établissements reconnaissent aussi qu'ils ont perdu une partie du personnel. Pour attirer les étudiants étrangers, le gouvernement leur promet qu'ils pourront rester au Royaume-Uni pendant 2 ans après leur cursus et cherche un programme pour remplacer Erasmus, solution irréaliste pour Ambra Annibali, italienne spécialiste du génome.
Ça fait 6 ans que je suis là. Tout l'argent qui finance mes recherches vient pour l'instant de l'Union européenne. Je ne vois pas comment le Royaume-Uni seul va pouvoir trouver une solution. J'espère qu'ils ont une idée.
Car le dernier rapport indépendant le montre, les financements européens font travailler 19 000 chercheurs et universitaires au Royaume-Uni qui génèrent près d'1 milliard d'euros de retombées chaque année.
C'était Antoine Géniaud, correspondant à Londres de France Culture, à l'aube d'un sommet européen largement consacré au Brexit. Pendant ce temps, le ministre français des Affaires étrangères sera lui en Irak, où il est attendu ce matin pour une visite de 2 jours. Jean-Yves Le Drian veut discuter à Bagdad de la lutte contre les djihadistes en Irak et en Syrie. L'offensive turque sur le terrain syrien rebat les cartes. Elle cible les Kurdes qui détiennent des milliers de combattants djihadistes. Et cela oblige Paris et ses alliés à lutter différemment contre Daesh, Franck Madvon.
La France le martèle, l'offensive turque en Syrie est une formidable opportunité pour Daesh. Les Kurdes, qui ont déjà abandonné de nombreuses localités, pourraient relâcher les milliers de djihadistes qu'ils détiennent. Des cellules dormantes peuvent se réveiller. Un diplomate s'inquiète. Tous nos fondamentaux en Syrie depuis 5 ans sont remis en cause. Face à cette situation, la France appelle à une réunion de la coalition internationale contre Daesh. Et l'Irak a bien sûr joué un rôle clé dans ce combat. Son armée et les Peshmerga du Kurdistan irakien chrétiens étaient en première ligne. Il faut maintenant une nouvelle stratégie pour affronter le groupe État islamique et c'est pour en parler que Jean-Yves Le Drian est à Bagdad. L'Irak a sans doute besoin d'aide. La réunion de la coalition internationale pourrait se tenir dans les jours qui viennent à Washington. Par ailleurs, à ce stade, les Kurdes contrôlent encore les prisons et les camps où sont détenus les combattants djihadistes. Il n'est pas trop tard pour discuter d'un cadre judiciaire pour ces prisonniers. Parmi eux, des dizaines de Français que Paris veut voir juger sur place.
C'est moins les ressortissants djihadistes que pour protéger ses soldats que Washington, de son côté, demande toujours à Ankara d'arrêter son offensive. Alors que Jean-Yves Le Drian sera donc en Irak, le vice-président américain Mike Pence, lui, est en Turquie. Il rencontrera le président Recep Tayyip Erdogan. La Maison-Blanche menaçait hier de nouvelles sanctions économiques contre la Turquie. Hajar Reysouni est sorti de prison hier soir au Maroc, près de Rabat, et avec elle son fiancé et son gynécologue. Ils ont bénéficié d'une grâce du roi Mohamed VI, une grâce motivée par la compassion. Ils avaient tous été condamnés le mois dernier à de la prison ferme pour avortement illégal, relation hors mariage, suscitant l'indignation d'une partie des Marocains. Il n'est à l'heure actuelle pas question qu'ils sortent de prison. En Iran, la chercheuse franco-iranienne Ferba Abdelka et son compagnon Roland Marshall, chercheur lui aussi, sont accusés en Iran sans preuve d'espionnage. Ils sont incarcérés à la prison d'Evin, un établissement construit au début des années 70. Depuis la révolution, tous les ennemis du régime y sont emprisonnés, Christian Chesneau.
Tous les Iraniens connaissent la sinistre réputation de la prison d'Evin de Téhéran. Derrière ses murs croupissent tous ceux et celles qui sont accusés d'être des ennemis de la révolution, explique Karim Laïdji, président d'honneur de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme et qui, en tant qu'avocat, a défendu des accusés au début des années 80.
Grosso modo, on peut dire qu'actuellement, il y a une centaine de femmes et des centaines de prisonniers politiques, prisonniers d'opinion, des personnes qui ont été arrêtés pour l'espionnage, les gens qui ont des nationalités irano-étrangères, irano-françaises comme Fariba Abdelka, des irano-américains, des irano-britanniques, etc., etc.
Quand ils n'ont pas encore été jugés, les prisonniers subissent des interrogatoires éprouvants, parfois pendant la nuit. Tout est fait pour les faire craquer psychologiquement, poursuit Karim Laïdji.
Ils sont davantage l'objet de pression morale que les sévices corporels. C'est-à-dire qu'ils utilisent tous les moyens pour que la personne fasse des aveux ou dont entre guillemets, des informations.
Pour les binationaux, les chancelleries occidentales essaient d'obtenir un droit de visite consulaire pour rencontrer le ressortissant incarcéré à la prison d'Evin, mais se heurtent à un mur car l'Iran ne reconnaît pas la double nationalité.
Et face à l'emprisonnement des deux chercheurs français, le Quai d'Orsay décrivait hier soir une situation inacceptable. C'est un mouvement généralisé en Europe, celui des agriculteurs qui ne veulent pas payer toutes les conséquences des mesures écologistes. Ainsi, aux Pays-Bas, hier, ils étaient des milliers à manifester dans la ville, de La Haye, autour des bâtiments institutionnels. Antoine Moutot y était pour France Culture.
Un concert de klaxons en continu, des centaines de tracteurs sur les routes et des dizaines de camions militaires pour leur bloquer le passage vers le siège du gouvernement. Ce spectacle inhabituel, c'est celui auquel ont assisté hier médusés les habitants de La Haye. Des agriculteurs de tout le pays étaient venus manifester leur colère envers un gouvernement qui, disent-ils, veut leur faire porter tout le poids de la lutte contre le réchauffement climatique. Munis de grands drapeaux néerlandais, Renzo et Rerco, deux jeunes producteurs laitiers, guident les tracteurs au milieu des bouchons.
Nous sommes ici aujourd'hui car les politiques nous prennent pour des vaches à lait. Il faut que ça cesse. Il en va de notre survie.
Ce rassemblement est un succès. Reste à savoir ce que va faire le Parlement. J'espère qu'ils vont nous écouter, sinon nous reviendrons.
Les agriculteurs présents ici s'opposent à l'instauration de mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment l'azote. Beaucoup craignent ici une diminution forcée du nombre de têtes de bétail dans le pays. Il y a deux semaines, un premier grand rassemblement avait eu lieu au même endroit, ici à La Haye, et il y a trois jours, les agriculteurs manifestaient devant les parlements de huit provinces néerlandaises. En voyant les tracteurs monter sur les parvis des conseils provinciaux, les dirigeants de plusieurs provinces ont pris peur. Ils ont préféré retirer leurs mesures anti-gaz à effet de serre. C'est d'ailleurs visiblement pour éviter un tel scénario au niveau national que le gouvernement central à La Haye a fait venir hier l'armée pour impressionner les fermiers.
C'était notre correspondant Antoine Moutot depuis La Haye, aux Pays-Bas.
8h10 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Le gouvernement envisagerait un plan B sur la réforme des retraites.
Le quotidien Les Échos en fait sa une ce matin et plusieurs médias disent également avoir eu accès à un même document de travail. L'exécutif réfléchit à reculer l'âge des premiers concernés par la réforme des retraites. La première génération ne serait plus celle de 1963 et le texte pourrait ne s'appliquer qu'aux nouveaux entrants sur le marché du travail en 2025 et pas avant. Ce sont des pistes de travail. Car le gouvernement veut apaiser la colère généralisée contre ce texte. Hier, une première journée de grève interprofessionnelle était annoncée et programmée au 5 décembre prochain. Une convergence syndicale qui n'est pas une convergence des luttes, c'est l'analyse de Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail.
L'expression « convergence des luttes » est une expression très CGT. Force ouvrière, par tradition, dit toujours qu'il ne peut y avoir unité d'action dans la durée que s'il y a unité de pensée. Nous vivons aujourd'hui une sorte de bipolarisation, en tout cas établie depuis quelques années, avec d'un côté un syndicalisme de refus et de l'autre côté un syndicalisme de réforme. Et dans le sillage de la CGT, on voit la FSU, on voit Sud. Dans le sillage de la CFDT, on voit la CFTC, l'UNSA. Et il y a deux organisations qui ne sont pas calées. C'est la CFE-CGC et puis Force ouvrière, qui objectivement ne peut pas rester toute seule dans la durée. Tout l'acte posé d'organiser avec la CGT et ses alliés une manifestation commune le 5 décembre.
C'était Bernard Vivier au micro de Sarah Ders sur la réforme des retraites. Le Premier ministre Édouard Philippe participera aujourd'hui à un débat dans le Jura à Lons-le-Saunier, suite de la grande concertation. La mère de famille, interpellée publiquement ce week-end à Dijon pour qu'elle enlève son voile, va porter plainte contre l'élu du Rassemblement National. Deux plaintes pour violence en réunion à caractère racial et incitation à la haine. Hier soir, le président Emmanuel Macron a dû intervenir dans ce débat. Pas de communautarisme, a-t-il dit, mais pas de stigmatisation non plus. Un supermarché d'Angers peut-il ouvrir tout le dimanche dans une zone qui n'est pas touristique? Le tribunal de grande instance tranchera aujourd'hui face à une enseigne qui tente de contourner la loi française. Enseigne qui fait appel à un prestataire avec ses propres employés, Samuel Monod.
Ce prestataire emploie des animatrices qui sont payées le dimanche après-midi pour accueillir les clients aux caisses automatiques. Un des objectifs du tribunal de grande instance d'Angers, c'est de savoir à quelle fin étaient embauchés ces salariés dominicaux. Selon l'inspection du travail, les animatrices commerciales font passer les articles en caisse et aident à gérer les paniers. Des missions qui ressemblent à celles des caissières, selon le gendarme du droit du travail. Géant Casino maintient que le procédé est légal et qu'il n'y a aucun contournement de la loi. L'inspection saisit alors la justice. Le 3 octobre dernier, lors de l'audience devant le juge des référés, l'avocat du sous-traitant affirme que les animatrices, je cite, « assurent juste la promotion d'un nouveau moyen de paiement, une application facilitant le passage aux caisses automatiques. C'est donc de l'événementiel », conclut-il. Le patron d'éthique accueil, le prestataire, lui, se justifie en insistant sur la dimension temporaire de ce dispositif. « Quand les gens auront compris comment se servir des caisses et de l'application, on n'aura plus de raison d'être là », affirme-t-il. L'avocat de l'intersyndicale rétorque « ça ne s'arrêtera pas, les clients changent, au moins en partie ». Cette affaire montre aussi les difficultés dans le secteur de la grande distribution et le groupe Casino est celui qui souffre le plus. Il fait face à une dette de presque 4 milliards d'euros. Alors tous les moyens sont bons pour attirer la clientèle. Selon les économistes, recourir à de tels procédés comme faire appel à un prestataire pour justifier une ouverture le dimanche après-midi n'est pas vraiment surprenant. Ils permettent notamment de disposer d'un levier de concurrence face à d'autres groupes. Autant dire que cette décision d'aujourd'hui sera scrutée par tout un secteur d'activité.
L'homme de Vitruve de Léonard de Vinci peut être prêté au Louvre pour sa grande exposition cet automne. La justice italienne a finalement tranché en faveur de la France hier après-midi. Elle est passionnée par les langues, a d'ailleurs écrit l'éloge de la traduction. Elle est helléniste, philologue, philosophe. Barbara Cassin entre officiellement à l'Académie française ce jeudi après avoir été élue en mai 2018. Barbara Cassin, 72 ans, surprise mais ravie.
Je suis très heureuse en fait, beaucoup plus heureuse même que je ne l'aurais cru. D'abord parce que je suis très bien accueillie et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose de se sentir accueillie dans un monde qu'on ne connaissait pas. Ce n'est pas un monde que je connaissais. Et puis parce que l'idée de travailler au dictionnaire de l'Académie me plaît beaucoup. L'idée d'être en prise sur une langue, vous savez le dictionnaire de l'Académie quand il est fini il recommence. Donc quand on est à Z, on repart à A. Bien l'idée d'être en prise sur une langue dont on comprend que c'est un flux, qu'elle n'est pas fixée, même si on la fixe provisoirement dans le dictionnaire, même si on joue entre la norme et l'usage pour en faire quelque chose d'à chaque fois un peu neuf, correspondant au temps qui est le nôtre. Donc je trouve ça très excitant.
Barbara Cassin au téléphone de Vianney Smirovski pour France Culture. De la pluie sans discontinuer, sauf sur le sud-est. Voici la météo de ce jeudi en France métropolitaine. Pour les températures, il faut compter ce matin 14 degrés à Rennes, à Lille et à Paris, 15 à Strasbourg, Lyon et Bordeaux, 21 degrés à Marseille.
Merci Clara Lecoq-Réal.